l'audioblog du passé composé. Aujourd'hui, Jean de Margonne, un roman inédit de Balzac. Cette histoire est une histoire vraie. Pourtant, Balzac, le plus grand de nos romanciers, le génie de notre littérature, aurait pu l'imaginer et l'écrire. Le cadre est celui de nombre de ses œuvres. Les personnages, leurs passions, leur grandeur, leur petitesse sont balzaciens avant la lettre. Mais Honoré de Balzac ici a changé de statut. L'auteur est devenu personnage à part entière. Même si chacune de ses entrées en scène donne des couleurs à l'intrigue, il n'a pas toujours le meilleur rôle. Tour à tour acteur clé, témoin ou simple apparition, il éclaire et donne du sens à la vie de ceux qu'il croise. Le véritable héros de ce récit s'appelle Jean Margonne. Balzac l'a immortalisé par les multiples séjours qu'il fit chez lui dans son château de Saché, en Indre-et-Loire, d'où il écrivit tant de chefs-d'œuvre et où il trouva les ressources morales pour affronter ses multiples épreuves. Il s'y refit souvent une santé. Jean Margonne est né en 1780 à Nogent-le-Rotrou, où son père était négociant en tissu. Sa mère, Marie Butet, était l'une des deux filles du châtelain de Saché. Rien ne le destinait ainsi au rôle marquant que lui reconnaissent aujourd'hui les historiens de la littérature. Mais depuis 1802, le nom de Jean Margonne est lié à celui d'Honoré de Balzac. Rien ne serait arrivé sans Jean Butet, un personnage clé dans le destin de Jean Margonne, tout autant que sa femme Périne Poulet. C'est bien par eux, le ménage Butet-Poulet, qu'il faut commencer cette histoire. Jean Butet est aussi un négociant de Nogent-le-Rotrou. Mais en 1779, son argent le fait littéralement changer de caste. Il achète ce jour-là la terre, le château et la seigneurie de Saché. Les vendeurs appartiennent, eux, à la bonne noblesse de Touraine. C'est un vaste domaine de 800 hectares. Il comprend aussi deux châteaux, celui de Saché et celui voisin de Valaine. Il comprend aussi plusieurs fermes et des moulins situés sur l'Indre. La terre de Saché a anobli le commerçant, même s'il est au bas de l'échelle de la noblesse. Il se retrouve ainsi à Tours en 1789 pour siéger à l'Assemblée générale de la noblesse de Touraine. 10 ans de noblesse n'ont pas totalement transformé le négociant, et Jean Butet s'adapte facilement à toutes les étapes du changement de régime. Il n'inquiète personne non plus, et c'est sans histoire qu'il devient maire de Saché en 1792. Les nouveaux textes ne le troublent pas davantage, mais il a bien tort. Il va être une curieuse victime des nouveaux droits. Si en public, il reste le maître, puisque le seigneur est devenu maire. En privé, le ménage est au plus mal. Jean a épousé Périne en 1755, mais il y a longtemps que les deux époux ne s'entendent plus, et ils ne vivent même plus sous le même toit depuis plusieurs années. Leurs deux filles sont mariées depuis longtemps. Marie a épousé Jean Margonne et est restée à Nogent-le-Rotrou. Jean Margonne, leur unique enfant, y est né, nous l'avons vu, en 1780. Mais Marie est morte en 1789. Périne, la seconde fille, a épousé Henri-Joseph de Savary, un ancien officier, devenu viticulteur, et vit à Vouvray, au château de la Caillerie. Elle y meurt en 1791, ne laissant, elle aussi, qu'une fille, Anne, âgée de moins de 8 ans. La loi du 20 septembre 1792 institue en France le divorce. Périne n'hésite pas longtemps. Dès novembre, elle demande le divorce. Jean Butet n'imaginait sans doute pas qu'il serait l'un des premiers divorcés de son département. Mais comme pour toute rupture de contrat, il faut procéder au partage des biens. Les deux ex-conjoints vont se déchaîner et se lancer dans des procédures très conflictuelles qui vont traîner en longueur. L'enjeu, le château de Saché et ses dépendances. Contre toute attente, c'est la femme qui gagne. En août 1797, Saché est attribué à Périne, redevenu Poulet. Il lui reste à assurer la pérennité du domaine chèrement acquis. Elle avait deux héritiers, égaux en droit, le fils et la fille, enfants uniques tous les deux, des deux filles qu'elle avait eues avec Jean Butet. Jean Margonne et Anne de Savary avaient respectivement 22 et 19 ans. Seul le mariage des deux cousins germains pouvait sceller la préservation du domaine de Saché. Les deux orphelins avaient sans doute l'un pour l'autre l'affection qu'un destin commun et douloureux avait consolidée. On dirait aujourd'hui qu'ils s'aimaient bien ou qu'ils s'aimaient beaucoup. Peut-être même Anne, disgraciée physiquement, aspirait-elle avec plus de force à cette union. Elle devait aimer Jean, sans doute le meilleur parti qu'elle pouvait espérer. Mais pour lui, tout devait être différent. Il aimait Anne comme une petite sœur. Elle pouvait bien devenir son épouse sans pour autant être réellement sa femme. Jean voulait s'acheter. Anne était un passage obligé. Il se marie à Vouvray en août 1803. Dès leur mariage, les deux époux s'installent à Tours, mais ils séjournent aussi fréquemment à Saché. C'est à Tours qu'ils font la connaissance de la famille Balzac, des amis d'Henri de Savary. Bernard-François Balzac était arrivé à Tours en 1797. C'était un fonctionnaire important qui s'occupait d'approvisionnement de l'armée. Ambitieux, pour ne pas dire intrigant, il était le protégé du général-préfet de Pomerol. Il devint ainsi administrateur de l'hôpital et adjoint au maire de Tours. En 1803, il fit l'acquisition d'un hôtel particulier de construction récente. Le fils de Balsa, petit paysan de l'Ariégeois, avait fait bien du chemin en devenant Balzac, et même de Balzac, comme il le prétendra sans titre aucun, en 1802, sur l'acte de naissance de sa fille Laurence. Ses ambitions se confortent en 1797, lorsqu'à 51 ans, il épouse une jeune fille de 18 ans, Laure Salambier, fille d'un ancien drapier parisien, lui aussi entré dans les subsistances militaires. Laure n'est pas seulement jeune et jolie, selon les critères de l'époque, elle apporte aussi une belle dot. Lorsque Jean Margonne est introduit dans les salons de l'hôtel des Balzac, le couple a déjà trois enfants. Honoré, né en 1799, Laure, né en 1800, et Laurence, né en 1802. En 1803, Laure Balzac a 25 ans, 2 ans de plus que Jean de Margonne. Son mari lui est âgé de 57 ans. Elle estime avoir fait bien plus que son devoir envers lui. Elle tient aussi son salon où son mari peut recevoir les notabilités tourangelles. C'est peu de dire qu'elle est très courtisée. Bernard-François, en toute apparence, ferme les yeux. Pour ne pas subir les entraves de la maternité, Laure a placé Honoré et Laure en nourrice dans une ferme de Saint-Cyr et confié l'éducation de Laurence à une gouvernante particulièrement sévère. Elle est libre de ses mouvements et prend quelques distances à l'égard d'un mari qui s'aigrit. Dans le petit cercle des prétendants, Laure se rapproche de Jean Margonne, dont elle devient la maîtresse en 1807. Celui-ci, pour ce qu'il concerne, ne vivait avec Anne de Savary qu'un mariage de façade. Il tombe amoureux. Quelques mois plus tard, Laure dut avouer à son mari qu'elle est enceinte. Le 21 décembre 1807, Laure de Balzac donne naissance à son quatrième enfant, un fils, Henri. Dans cette ville de province, les commérages vont bon train et personne n'a de doute sur la paternité de Jean Margonne. Bernard-François a eu temps de s'habituer à la grossesse de sa femme et décidé d'assumer ce nouvel enfant. Impossible aujourd'hui de savoir si elle, Anne Margonne, était informée. Honoré a lui été exilé dans le collège de Vendôme, dont il ne sortira qu'en avril 1813, sans avoir pris un seul jour de vacances, et ne recevant en 6 ans que 2 visites de sa mère, qui vit pourtant à 15 lieues de lui. Jean Margonne va un peu s'éloigner de Tours à partir de 1812, l'année où Anne et lui deviennent propriétaires de Saché. Leur grand-mère commune, Périne Poulet, était en effet morte à Paris. Devenu maître des lieux, Jean Margonne continue d'acquérir de nouvelles terres. Il possède ainsi une des plus belles et des plus riches propriétés du département. Même s'il n'en existe aucune preuve, de fortes présomptions laissent à penser que les relations entre Jean Margonne et Laure Balzac n'ont pas cessé avec la naissance d'Henri. Au printemps 1813, c'est à Jean Margonne que Laure demande le grand service d'accueillir quelques mois à Saché le jeune Honoré, âgé de 14 ans, qu'elle a dû retirer de son collège après 6 ans d'internat. Au cours du second trimestre, Honoré a vu sa santé se dégrader. Son système nerveux, en particulier, a beaucoup souffert. Ce premier séjour à Saché le remet sur pied. Son apathie s'estompe avec le calme et le repos. Saché va ainsi s'imprimer dans la conscience d'Honoré de Balzac. Jean Margonne, lui, s'est installé dans la vie d'un grand propriétaire terrien, administrant ses biens et cultivant des relations sociales de proximité. En 1822, il fit avec sa femme l'acquisition d'un hôtel particulier à Paris. À partir de cette époque, les Margonne adoptent un rythme de vie partagé entre Paris et Saché, passant l'hiver dans la capitale et vivant en Touraine d'avril à la fin de l'automne. Les allers-retours des Margonne de Paris à Saché vont dès lors avoir une influence considérable sur la vie d'Honoré de Balzac. Curieusement, ce fut lui, en effet, des 4 enfants de Laure qui bénéficia des constantes attentions des Margonne. Honoré était-il ainsi un fils de raccroc, un fils par procuration pour Jean Margonne, une manière de faire vivre ou revivre une passion mal éteinte sous son propre toit. sous de nombreux pseudonymes, Honoré gagne alors sa vie en publiant à un rythme effréné des œuvrettes de commande tout en vivant misérablement. En juillet 1823, il se rend à Saché, où il n'était pas retourné depuis 10 ans. Il a maintenant 24 ans et bien entamé sa carrière d'écrivain, même s'il n'a pas trouvé sa voie et continue de ce fait d'utiliser des pseudonymes. En septembre 1825, Balzac séjourne à nouveau brièvement à Saché. Mais il faut attendre 1830 pour son premier séjour prolongé depuis son enfance. Honoré décide de se rendre seul à Saché pour quelques semaines. Par souci d'économie, il se remet à pied de Tours à Saché, parcourant 23 kilomètres. Un passage du médecin de campagne illustre ce souvenir. « J'avais entrepris d'aller à pied de Tours à Saché, vieux reste de château, qui se recommande chaque année à ma mémoire par des souvenirs d'enfance et d'amitié. » Depuis quelques mois, Honoré est vraiment célèbre. Il n'est plus seulement pour Jean le fils de son ancienne maîtresse qu'il accueillait en souvenir, et peut-être pour des raisons plus complexes. Cette fois, Jean est flatté de recevoir l'écrivain adulé. Balzac vient de publier « La peau de chagrin », qui a vite connu un grand succès au point que Jean de Margonne lui signale qu'à Tours, les libraires ont peine à satisfaire aux demandes de leur clientèle. Du 1er novembre à la mi-décembre 1831, harcelé par les problèmes financiers, Balzac se réfugie à nouveau à Saché. Il y écrit la première partie des Contes drôlatiques et y termine Maître Cornelius. Dans une lettre, il décrit ainsi le travail harassant qui rythmait ses journées à Saché. « Je vis sous le plus dur des despotismes, celui qu'on se fait à soi-même. Je travaille nuit et jour. Je suis venu me réfugier ici au fond d'un château comme dans un monastère. Je suis ici occupé à grossir mon trésor pour me débarrasser des deux dernières dettes de mon désastre. Je fais 2 ouvrages à la fois, outre mes articles de journaux. » L'année suivante, il vit à Saché une partie de l'été. Célèbre, très célèbre, il a besoin d'échapper à la vie parisienne et à ses tourments financiers. Il travaille alors au 4e volume de ses Contes drôlatiques et à plusieurs autres projets, dont Louis Lambert, Les Chouans, Le Voyage à Java, Les Célibataires. Honoré se donne maintenant de la particule qu'il usurpe allégrément à l'exemple de son père, et il en attribue une aussi au châtelain de Saché. Or, respectueux de son état civil, Jean Margonne, lui, ne s'attribuait pas de particules. Mais certains croyaient le flatter en le nommant Jean de Margonne. Honoré de Balzac va l'immortaliser avec sa particule. La vie de Balzac à Saché est aujourd'hui notamment bien connue par la relation qu'en a faite Amédée de Salmon de Maisonrouge, petit cousin de Jean Margonne et héritier de Saché. On lui doit notamment cette savoureuse anecdote. Balzac aimait à travailler dans cette solitude sévère et à rêver sous les chaînes séculaires. Traité en enfant gâté, on lui passait tous ses caprices et il avait pris l'habitude d'en user largement. Or, ses fantaisies n'étaient pas toujours très aimables. La plupart du temps, préoccupé du roman qu'il méditait ou écrivait, il se laissait absorber par ses pensées, devenait silencieux, morose et même grognon, pour employer l'expression de M. de Margonne. Il arriva un jour que les châtelains de Saché allèrent dîner à Artane chez M. Gouin, à sa propriété qui s'appelait Méret. À la soirée où se trouvait une brillante société, M. de Balzac, peut-être un peu stimulé par les bons vins du pays, pressé de questions sur le roman qu'il écrivait, contre son habitude, donna quelques détails. Puis sa verve s'échauffant, il en narra des passages et enfin, s'oubliant tout à fait, il devint l'acteur de son œuvre, d'autant plus naturel qu'il signerait lui-même dans cet art. Il fit parler ses personnages, les mima avec une finesse d'esprit très grande et tint tous ses assistants sous le charme. Au retour de Saché, dans la voiture, Jean complimenta Honoré. « Vous avez été, mon cher, lui dit-il, pétillant d'esprit. C'était un vrai régal de vous voir et de vous entendre. Eh bien, nous qui vous aimons tant, pourquoi ne nous donnez-vous pas de temps à autre cette satisfaction ?» Et il continua de lui faire un petit sermon sur le sujet. Balzac n'aimait pas les reproches, voire même les observations. Il avait la répartie vive et pas toujours aimable en telles circonstances. Cette fois, il ne répondit rien et baissa la tête comme un écolier pris en faute. Le lendemain matin, il ne parut pas au déjeuner. Et M. de Margonne se reprochait sa semonce. Il bouda toujours. Au dîner, il sembla embarrassé, et la conversation fut pénible. Mais à la soirée, voilà que tout d'un coup, Honoré se mit à dire « Eh bien, puisqu'hier soir, le narrat du roman que j'écris a semblé vous intéresser, je vais vous en donner la suite, d'autant plus facilement que j'ai là le texte. » Et tirant le manuscrit de sa poche, il se mit à le lire de cette manière inimitable qui n'appartenait qu'à lui. Et tous les soirs suivants, il continua ainsi. Parfois, il s'échauffait, gesticulait, se levait et arpentait le grand salon de Saché, poursuivant son récit par cœur, quoiqu'ayant son manuscrit en main. Et comme cependant il s'approchait de la lampe pour jeter les yeux dessus, on disposait des candélabres espacés sur plusieurs tables. Balzac laissait faire, allant volontiers d'un jalon de lumière à un autre et continuait sa mimique. Monsieur de Margonne recevait souvent, et qu'il y eût du monde au château ou que les châtelains fussent seuls, Balzac continua dès lors tous les jours à charmer leur soirée. Mais Honoré ne s'en tint pas à être aimable à la soirée. Son humeur changea complètement et il devint aimable à toute heure et pour tous. Il finit par faire sa confession à M. de Margonne, le remerciant de la vie qu'il lui avait donnée et appela lui-même ce changement sa conversion à l'amabilité. Cet excellent homme avoua naïvement ne jamais y avoir réfléchi auparavant et qu'il comprenait maintenant pour le reste de ses jours le devoir d'amabilité que chacun de nous devait à ses semblables. Ses habitudes à Saché pour écrire ses romans sont un document précieux à signaler. Quand il avait fini d'écrire, il se mettait en vacances à ce qu'il disait. Alors il menait la vie la plus irrégulière du monde, se levant à n'importe quelle heure, flânant où sa fantaisie l'emportait, oubliant les heures des repas. Mais s'il n'écrivait pas, alors sa tête travaillait toujours et il bâtissait mentalement le roman à venir. Aussi, ses prétendues vacances n'étaient pas de longue durée, 4 ou 5 jours, et il était repris par la fièvre d'écrire. Du reste, aucun délassement et plaisir de la campagne n'avait de charme pour lui. Il essayait de chasser, mais toujours distrait, il tuait rarement du gibier. Il en était de même de la pêche. Monsieur de Margonne le surprit un jour. Le poisson pris à l'hameçon, secouant la ligne, et Balzac oubliant de la tirer. Le plus intéressant à faire connaître, ce sont ses habitudes quand ses prétendues vacances terminées, il se remettait à écrire. Il avait un gros réveil matin, car il dormait très bien et très dur, qu'il faisait sonner à 2 heures du matin. Alors il se préparait lui-même du café sur une lampe à esprit de vin avec plusieurs tartines de pain grillé. Et il se mettait à écrire sur son lit, se servant d'un pupitre fait de manière qu'il pût relever les genoux au-dessus au besoin. Il continuait ainsi à écrire sur son lit jusqu'à 5 heures du soir, se contentant pour toute nourriture de son café et de ses tartines de pain grillé. À 5 heures, il se levait, faisait toilette pour dîner et restait avec ses hôtes au salon jusqu'à 10 heures, heure à laquelle il disparaissait pour se coucher. Jamais il n'apportait de modification dans cette manière de faire. Son roman conçu dans sa tête, il l'écrivait en entier d'un seul jet, au courant de la plume, ne laissant comme lacune que les documents techniques qui lui manquaient. Puis il les reprenait, y apportant les modifications jugées nécessaires. Et enfin, il reprenait une troisième fois, châtiant alors le style, phrase par phrase, ne laissant quelquefois pas un seul mot du premier jet. Honoré était très souvent sans argent, ce qui l'amenait parfois à sacher. Monsieur de Margonne était très bon pour lui et lui en donnait volontiers, mais pas toujours de suite afin de le retenir plus longtemps. Quand il arrivait la bourse plate, il se montrait très affable pour les domestiques, n'ayant rien d'autre chose à leur donner. Mais s'il passait raide, jouant un peu au grand seigneur, les domestiques disaient « ça va bien ». Il avait la main généreuse et était très charitable pour les malheureux quand il le pouvait. L'année 1834 est marquée pour Balzac par la publication d'Eugénie Grandet. Le sujet du livre sortait d'une conversation dans le salon de Saché avec M. de Vonne, le châtelain voisin. Balzac arrive à Saché à la fin de septembre 1834. Jean Margonne a du mal à le reconnaître avec ses traits émaciés, mais surtout son abondante chevelure. Il est en effet prisonnier d'une promesse à Mme Anska de ne plus se faire couper les cheveux. Tout cela pour se faire pardonner l'oubli d'un envoi d'une mèche de cheveux, rite romantique adopté par le couple après le premier rendez-vous en Suisse. Il y avait plus d'un an qu'il respectait ce serment et sa chevelure atteignait le col de ses vêtements. Pendant son séjour, il termine le Père Goriot et écrit l'essentiel de César Birotteau. La publication du Père Goriot en 1835 vaut à Balzac des hommages unanimes. Il est cette fois l'auteur d'un chef-d'œuvre reconnu. En 1836, c'est la publication du Lys dans la vallée, tout aussi triomphale. C'est à Saché qu'il en avait trouvé l'inspiration. La vallée de l'Indre, ses châteaux et sa campagne ont servi de cadre au roman. Le château de Saché est d'ailleurs surnommé le château du Lys. Il est devenu dans le roman le château de Frapelle. Mais les succès n'apaisent pas le moins du monde la meute des créanciers de l'auteur qui l'oblige à quitter son appartement parisien et à se cacher. En juin 1836, Balzac arrive à Saché, très déprimé physiquement et moralement. Pourtant, il se mit très vite au travail, jusqu'à 13 heures par jour. Les illusions perdues seront le fruit de cette vie de forçat. Ce séjour fut pourtant le dernier des séjours réguliers à Saché. Personne n'est même certain que Balzac y soit revenu avant le dernier passage connu en 1848. Il est vrai que Jean de Margonne, après le décès de sa femme en 1841, séjourne à Paris l'essentiel du temps. Il annonce avec esprit cette décision à honorer. Malgré la charmante description que vous avez faite de notre vallée dans vos ouvrages, elle n'est pas assez belle à mes yeux, qui la voit apparemment depuis trop longtemps pour que j'y reste dans la solitude où je suis. Honoré, de son côté, n'hésite pas à lui suggérer un projet matrimonial avec sa propre mère, elle aussi devenue veuve. Jean décline avec humour. Le moyen que vous me proposez comme consolation est un peu vif et surtout bien prompt. Je crains d'ailleurs qu'il ne soit trop tard pour arriver au but que vous me proposez. Je n'ai pas si bonne opinion de moi-même que vous le pensez, et certains auteurs de ma connaissance me feraient craindre d'être minotaurisé si j'osais suivre vos conseils et m'embarquer de nouveau sur la mer orageuse. La grande affaire de Balzac en 1841, ce n'est pas la mort d'Anne Margonne, mais celle du comte Anski. Il ne l'apprend d'ailleurs qu'en janvier 1842, mais il n'eut plus alors qu'une obsession, épouser l'étrangère. En 1843, il part pour Saint-Pétersbourg, où il passe 4 mois. Au retour, les échanges vont se multiplier avec Jean de Margonne pour que le couple s'installe dans une des maisons qu'il possède en Touraine, qu'achèterait la comtesse Anska. Les deux hommes se voient ainsi constamment à Paris, lorsqu'Honoré ne parcourt pas l'Europe avec son égérie. En juin 1848, Balzac revient à Saché. Jean l'accueille, avec sa fille naturelle, Alix, agissant en véritable maîtresse de maison. Sa présence change l'atmosphère, et visiblement, Balzac apprécie. Alix n'est-elle pas la demi-sœur de son propre demi-frère Henri ? Le lendemain de son arrivée, il se lève de bon matin et parcourut les environs du château, tout joyeux de sa liberté. C'était dimanche, mais il n'alla pas à la messe. Anne Margonne n'était plus là pour l'y contraindre. Chose nouvelle à sachez, Balzac se repose. Il est néanmoins diminué par la maladie et ne parvient pas à écrire. Il rentre à Paris le 6 juillet. Peu après, il part pour la Pologne chez la comtesse Anska. Il n'en reviendra qu'un an et demi plus tard, marié, heureux et mourant. Honoré décède à Paris en août 1850 à 51 ans. Victor Hugo fut son dernier visiteur. Jean de Margonne lui survécut 8 années et c'était en 1858 à l'âge de 78 ans. Dans son testament, il légua 200 000 francs à Henri de Balzac, qu'il n'avait pratiquement jamais vu au cours de sa vie. Henri avait cédé au mirage de l'aventure coloniale et sa vie s'était abîmée d'échec en échec, à l'île Maurice, à La Réunion, jusqu'à Mayotte, où il était décédé à l'hôpital militaire, 3 mois seulement avant la mort de son véritable père. Il n'aura jamais rien su de son legs. Aucune disposition n'ayant été prévue en cas de décès, ses héritiers ne purent recueillir la succession. Ainsi, le petit-fils de Jean de Margonne, Honoré Henri-Eugène de Balzac, mourut 6 ans plus tard, à 29 ans, à Saint-Denis de la Réunion, dans la plus complète indigence.